Chapitre 17. Un homme très dangereux. Le soleil estival est encore haut dans le ciel, mais l'air est de plus en plus lourd, comme si un orage se préparait. Jonalina et Eriksson se garent devant le vieux magasin de pêche, Fiskarnas Redskapshandel. Les photos de ceux qui ont attrapé les plus gros saumons dans les cours d'eau de Stockholm sont depuis toujours exposées en devanture. Le téléphone de Jona sonne. C'est Claudia Fernandez. Il s'approche du mur et, plongé dans l'ombre de la façade, il répond.
« Vous avez dit que je pouvais téléphoner, »
dit-elle d'une voix faible.
« Bien sûr. Je comprends que vous disiez ça à tout le monde, mais je me suis dit, ma fille, Pénélope, je veux dire, il faut que je le sache, si vous trouvez quelque chose, même si elle... »
La voix de Claudia s'éteint. « Allô, Claudia ?»«
Oui, excusez-moi, »
chuchote-t-elle. « Je suis inspecteur, j'essaie de comprendre les événements, de savoir s'il s'agit d'un crime. C'est le service de sauvetage en mer qui est à la recherche de Pénélope. »«
Quand est-ce qu'ils vont la retrouver ?»«
On commence généralement par sonder la zone de la disparition en hélicoptère. On organise simultanément une battue, mais ça prend un peu plus de temps, donc on commence par l'hélicoptère. »
Jona entend Claudia s'efforcer de dissimuler ses pleurs.
« Je ne sais pas quoi faire, J'ai besoin de savoir si je peux faire quelque chose, si je dois continuer d'interroger ses amis. »«
Le mieux, c'est que vous restiez chez vous. Pénélope va peut-être essayer de vous joindre, et dans ce cas... »«
Elle ne m'appellera pas. »
l'interrompt-elle. « Je crois que... »«
J'ai toujours été trop sévère avec Penny. Je me fâche toujours contre elle. Je ne sais pas pourquoi, Je ne veux pas la perdre. Je ne peux pas perdre Pénélope,
Claudia pleure dans le combiné, tente de se contenir, s'excuse rapidement et met fin à la conversation. En face du magasin de pêche, au 3 Sankt Paulsgatan, habite Pénélope Fernandez. Jona rejoint Eriksson, qui l'attend devant une vitrine recouverte de signes japonais et d'illustrations de manga. Sur les étagères s'entassent des centaines de Hello Kitty, ces poupées chats au grand visage innocent. Le contraste entre le magasin aux couleurs criardes et le brun terne de la façade est saisissant.
« Petit corps et grosse tête !» dit Eriksson en désignant une figurine Hello Kitty lorsque Jona s'arrête à ses côtés.
« Plutôt mignon !»
marmonne Jona.
« Moi, je me suis mélangé les pinceaux. C'est gros corps et petite tête !» plaisante Eriksson.
Jona lui adresse un sourire en coin et ouvre la large porte d'entrée. Il monte les marches en laissant leur regard glisser sur les plaques nominatives, les interrupteurs brillants des plafonniers, les vides ordures fermées. Il règne dans la cage d'escalier une odeur de soleil, de poussière et de savon noir mêlés. Haletant derrière Jona, Eriksson s'accroche si fort à la rampe qu'elle grince sous son poids. Ils atteignent en même temps le troisième étage et se regardent. Le visage d'Eriksson tremble encore sous le poids de l'effort. Il hoche la tête, essuie la sueur de son front et chuchote d'une voix désolée
« Excuse-moi. »
« Il fait lourd aujourd'hui. »
Près de la sonnette se trouvent quelques autocollants, un symbole antinucléaire, le logo du commerce équitable et un symbole de paix. Jona jette un coup d'œil à Eriksson, les pupilles de ses yeux gris se rétrécissent en deux fentes lorsqu'il colle son oreille à la porte.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchote Eriksson.
Toujours dans la même position, Jona appuie sur la sonnette. Il attend un moment, puis sort un étui de sa poche intérieure.
« Ce n'est peut-être rien, » dit-il en crochetant délicatement la serrure.
Jona pousse la porte, puis se ravise et la referme immédiatement. Il ignore pourquoi, mais fait signe à Eriksson de ne pas bouger. À l'extérieur, on entend la musique du camion du marchand de glace. Eriksson, qui semble inquiet, saisit machinalement son manteau entre son index et son pouce. Un frisson parcourt les bras de Jona. Il ouvre pourtant la porte avec son calme habituel et entre. Des journaux, des prospectus et une lettre du parti de gauche suédois gisent au sol. La pièce sent le renfermer. Une tenture en velours est suspendue devant la penderie. Un chointement s'échappe des profondeurs des canalisations. On entend un bref cliquetis depuis le mur. Instinctivement, Yona glisse sa main vers son arme de service. Il l'effleure du bout des doigts, mais la laisse dans sa gaine. Il fixe la tenture cramoisie, puis la porte de la cuisine. Il contrôle sa respiration et tente de voir par la vitre opaque au mur et la porte vitrée menant au salon. Même s'il aurait préféré quitter l'appartement sur le champ, Yona fait un pas en avant. Il a l'intuition qu'il devrait appeler des renforts. La vitre opaque se trouve soudain obscurcie. Les petits tubes en cuivre d'un carillon vacillent sans émettre leur tintement. Yona observe les particules de poussière qui, portées par un nouveau mouvement, changent de direction dans l'air. Il n'est pas seul dans l'appartement. Les battements de son cœur s'intensifient. Quelqu'un passe de pièce en pièce, il le sent. Il dirige son regard sur la porte de la cuisine. Puis tout s'enchaîne très vite. Le parquet grince. Yona entend un bruit répétitif, de brefs cliquetis. La porte de la cuisine est entrouverte. Yona aperçoit d'abord un mouvement par l'interstice entre les gonds. Il se plaque ensuite contre le mur. Quelqu'un avance d'un pas ferme dans l'obscurité du long couloir. Un dos, une épaule, un bras. La silhouette s'approche rapidement puis pivote. Yona a juste le temps d'apercevoir la lame d'un couteau qui, telle une langue blanche, semble comme projetée sur lui. La trajectoire, une diagonale de bas en haut, est si imprévisible que Yona ne peut se dégager. La lame transperce ses habits et la pointe vient heurter son arme. Yona tente en vain d'asséner un coup à son agresseur. Lorsqu'il entend une nouvelle fois le sifflement du couteau dans l'air, il se jette en arrière. Cette fois-ci, la lame arrive par le haut. En évitant l'attaque, Yona s'est cogné la tête contre la porte de la salle de bain. Il voit le couteau faire sauter un long éclat de bois en s'enfonçant dans le chambranle. Yona tombe, mais se retourne en lançant un coup de pied circulaire au ras du sol. Il heurte quelque chose, peut-être la cheville de l'agresseur. En un seul mouvement, il roule sur le côté pour esquiver un coup éventuel, empoigne son pistolet et arme le chien. La porte d'entrée est ouverte. Des pas rapides résonnent dans la cage d'escalier. Yona se relève pour courir à sa poursuite, mais un grondement derrière lui l'oblige à stopper net. Il comprend presque immédiatement ce dont il s'agit et se précipite dans la cuisine. Le four à micro-ondes est en marche. Il crépite et des étincelles noires fusent derrière la vitre. Les quatre brûleurs de la vieille gazinière sont grands ouverts et le gaz envahit la pièce. Yona a la curieuse sensation que l'atmosphère est devenue étrangement visqueuse, mais parvient à se jeter sur le micro-ondes. Le minuteur tourne vigoureusement. Le crépitement s'accentue. Une bombe d'insecticide tourne sur le plateau à l'intérieur du four. Yona arrache la prise et le silence retombe enfin. Seul le chuintement monotone du gaz dans les brûleurs est maintenant perceptible. Yona les éteint. L'odeur chimique de l'insecticide est écœurante. Il ouvre en grand la fenêtre de la cuisine, puis observe la bombe à l'intérieur du four. Elle est très gonflée et susceptible d'exploser au moindre contact. Yona quitte la cuisine et inspecte rapidement l'appartement. Les pièces sont vides, inchangées. L'air est toujours saturé de gaz. Devant la porte, Erickson est allongé à terre dans la cage d'escalier, une cigarette au coin de la bouche.
« N'allume pas !» crie Yona.
Erickson sourit et fait un geste rassurant d'une main lasse.
« Cigarette en chocolat !» murmure-t-il.
Erickson tousse faiblement et Yona remarque une mare de sang sous son corps.
« Tu saignes. Ce n'est pas grave, » dit-il. Je ne sais pas comment il a fait, mais il m'a coupé le talon d'Achille.
Yona appelle une ambulance et s'installe auprès de lui. Erickson est pâle et ses joues sont moites. Il a l'air mal.
Il m'a coupé sans s'arrêter. C'était comme se faire attaquer par une putain d'araignée.
Yona repense à l'extrême rapidité des mouvements derrière la porte. La lame qui s'était propulsée avec une vitesse et une détermination que n'avait jamais connue Yona auparavant.
« Elle est là-dedans ?» allait Erickson.
« Non. »
Soulagé, Erickson sourit, puis redevient sérieux.
« Mais il avait l'intention de faire sauter la baraque. Il voulait probablement effacer des traces ou une connexion quelconque, » dit Yona.
Erickson tente d'ôter le papier qui entoure sa cigarette, mais la fait tomber. Et ferme les yeux un moment. Ses joues sont devenues blêmes.
« Si je comprends bien, tu n'as pas vu son visage non plus, » dit Yona.
Non, répond Erickson d'une voix faible. On a vu quelque chose. On voit toujours quelque chose.